Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et je vous propose d'explorer notre part d'animalité, la bête qui est en nous. Au fond, sommes-nous si différents des animaux? Pourquoi dénions-nous cette dimension animale? Pourquoi taisons-nous notre part instinctive? Quelle est vraiment la singularité de nos émotions, de notre morale, de notre intelligence, au miroir de la faune qui vit avec nous sur notre planète? Voici quelques questions que nous poserons à notre invitée, l'éthologue Jessica Serra. Mes complices cet après-midi, Marie-Laure Sonnenschein et Christophe André. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, à lire et BI, Grand Bien vous fasse.
Docteur Zaius, regardez-le bien, j'ai l'impression qu'il vous répond.
Il y a un don d'imitation assez remarquable, en effet.
Il n'est pas du tout comme les autres. Il se sert de cette vieille couverture comme vêtement. Je me demande ce qu'il donnerait si on lui faisait passer le test d'Hopkins sur l'habileté manuelle.
Non, un animal.
Regardez, il bouge ses doigts.
Simplement parce qu'il vous a vu bouger les vôtres.
Oh, mais il a peut-être compris.
Sottise, l'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout.
Je crains de ne pas pouvoir être d'accord, Excellence. D'après mes expériences...
Docteur Zira, je vous mets en garde. Que vous fassiez des expériences chirurgicales sur le cerveau de ces créatures est une chose, et vous avez mon agrément. Mais vos études sur le comportement de l'homme ne me disent rien qui vaille. Prétendre que nous pouvons apprendre quelque chose sur la nature simiesque qu'en étudiant un homme tient de la fantaisie la plus échevelée. Plus tôt nous l'aurons exterminé, mieux ça vaudra. Vous le savez aussi bien que moi, c'est une question de survie pour les singes.
Extrait de la planète des singes en 1968. Bonjour Jessica Serra.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en éthologie, vous œuvrez pour différents organismes de recherche et entreprises et vous publiez chez Humaine Science un ouvrage qui m'a passionné, La bête en nous. Que vous inspire cet extrait de la planète des singes?
Ah, il m'inspire beaucoup de choses. Je pense que vous l'avez bien choisi parce qu'il s'inscrit tout à fait dans la lignée de la bête en nous, justement. Alors à l'inverse, puisque moi j'ai essayé de trouver finalement ce qui nous rapprochait le plus du singe. On voit que là, c'est des singes qui veulent pas se rapprocher de finalement de leur nature humaine. Moi, à l'inverse, j'ai essayé de voir ce qui nous rapprochait des animaux et beaucoup de choses en fait nous rapprochent d'eux.
En couverture de votre livre, une jeune femme qui regarde un miroir et dans son reflet, un singe qui nous toise avec beaucoup d'ironie, il semble nous dire « Et vous croyez être fondamentalement différent de nous ?»
Oui, cette couverture, j'ai mis du temps à la choisir, on l'a même créée. Je l'ai trouvée vraiment au premier abord très très facile d'accès et puis très symbolique parce qu'effectivement, quand on regarde un miroir, on se voit être humain, on se voit différent d'un animal parce qu'on a grandi comme ça, on nous a inculqué une éducation aussi en ce sens et malgré les découvertes scientifiques qui vont en faveur de notre nature animale, on reste convaincu de notre suprématie, de notre toute suprématie et de nos différence avec l'animal. Donc je trouvais cette couverture assez parlante.
Alors vous débutez votre essai avec Darwin, qui publie L'origine des espèces en 1859. Pourquoi ce grand livre continue-t-il à nous déranger ?
Alors, il continue à nous déranger parce qu'aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un qu'il est un animal ou qu'il est un singe, vous verrez que la réaction est toujours négative, rarement positive ou rarement bien prise. À la limite, peut-être chez certains éthologues, on en rigole et voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'idée de n'être qu'un singe, c'est quelque chose d'absolument dérangeant parce qu'on est tellement convaincu d'être plus que cela et parce que effectivement, nos croyances nous ont poussé, nous incitent encore aujourd'hui et notre éducation à croire que nous sommes bien plus qu'un simple singe, eh bien c'est quelque chose d'absolument dérangeant que de se dire que finalement notre condition animale nous ramènerait à notre condition de mortel aussi, à notre condition finalement d'être fini ou déterminé. On espère être bien plus que cela.
Alors pour la première fois depuis des millénaires, Darwin réinscrit l'être humain au sein du règne animal. Rappelons une chose fondamentale, hein, l'homme moderne ne descend pas d'une lignée nette qui commencerait avec un ancêtre commun avec les autres primates pour arriver à l'homme redressé et fier. Hein.
Oui, tout à fait, c'est important de le rappeler. L'homme est un singe, il est issu de croisements multiples. À une époque, il y a à peu près 40 000 ans, on aurait pu croiser d'autres espèces d'êtres humains. On l'oublie, mais l'être humain n'est pas si unique qu'il n'y paraît, puisque On aurait pu croiser des hommes de Néandertal, des hommes de Flores ou des Denisoviens. Donc on se rend compte que finalement d'autres espèces ont coexisté avec le sapiens qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, nous sommes l'héritage de ce croisement aussi d'espèces d'êtres humains, puisqu'aujourd'hui nous portons en nous quelques gènes de Néandertal, quelques gènes de Denisoviens. Donc on se rend compte que finalement, effectivement, on est l'aboutissement de différents croisements et qu'on n'est pas issu d'une lignée unique, de quelque chose d'assez graduel qui aboutirait à un summum, mais qu'on est, comme je le disais dans mon ouvrage, un petit bourgeon sur un grand arbre évolutif de la vie et qu'on continue, nous aussi, à être assujettis aux lois de l'évolution.
Je vous cite précisément, l'être humain ne se situe pas à l'extrémité de la plus jolie branche, à la cime de l'arbre. Alors, nos enfants ne sont pas une simple synthèse de nos gènes, ils sont une nouvelle version de l'être humain. La sélection naturelle influence nos gènes sur une génération et non sur des centaines d'années ou des millénaires.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Nous continuons à être dominés par les lois de l'évolution.
Oui, on a tendance à l'oublier parce qu'on a longtemps cru que l'être humain s'était soustrait des pressions évolutives. Et c'est vrai en quelque sorte pour certaines pressions, parce que nous avons créé, inventé et fait en sorte effectivement que ces pressions environnementales soient moins fortes sur l'être humain. Néanmoins, nous continuons d'évoluer. Et nos enfants, que nous pensons être une simple synthèse des gènes du père et de la mère, sont bien plus que cela, puisqu'ils portent en eux des mutations génétiques et qu'en fonction des mutations qui sont plus ou moins favorables à leur survie à eux, à notre descendance, eh bien, ces enfants-là vont avoir plus de chances de grandir ou en tout cas de ne pas mourir. Et on se rend compte qu'effectivement, d'une génération à l'autre, l'humain évolue. Et quand on regarde l'être humain sur une centaine d'années, même au niveau de la taille, au niveau morphologique, nous continuons de changer.
Alors, vous le dites bien dans votre livre, c'est quand nous avons voulu nous arracher à notre condition de simple mortel, de ne plus être une simple proie, un morceau de viande pour prédateurs, que nous avons eu conscience de notre humanité et donc de notre place singulière sur notre planète.
Oui, je pense qu'il y a eu un moment clé dans notre évolution qui a été finalement la naissance de la spiritualité, cette volonté de s'arracher à la mort, à cette condition de mortel justement, et que probablement pour conjurer nos angoisses existentielles, nous avons dû inventer un autre monde, un monde invisible, un monde où régissaient des croyances qui permettaient finalement d'expliquer le réel. Parce que face à l'insoutenable, parce qu'une perte d'un être cher, et puis il faut s'imaginer qu'à cette époque, la mort était omniprésente, c'était très compliqué de gérer des émotions de la perte d'un être. Et donc, il a fallu finalement, à un moment de notre histoire, se dire que quelque chose, quelque part, devait tirer les ficelles. Et je pense que ça, c'est le moment clé de la naissance de l'humanité. Moi, je le situerai là. C'est cette projection de la pensée vers, finalement, le domaine de l'imaginaire, de la fiction, qui a fait que même notre langage a certainement dû progresser à cette époque-là de manière vertigineuse, parce que nous avons fait voyager nos mots dans cet univers de la fiction.
Alors à propos de spiritualité, chez Sapiens, les représentations de l'animal étaient omniprésentes dans les peintures pariétales. Avec les animaux, Sapiens se situait dans un rapport horizontal et non pas hiérarchique.
Oui, en tout cas à l'époque préhistorique, quand on regarde l'histoire de l'humanité, effectivement, on se rend compte que l'homme de la préhistoire ne pensait probablement pas du tout de la même manière sa relation aux animaux, sa relation au cosmos que nous ne la pensons aujourd'hui, notamment grâce aux vestiges archéologiques que sont notamment les grottes ornées. On a pu observer sur ces grottes une surreprésentation de l'animal avec effectivement beaucoup d'espèces animales et qui sont très finement représentées. Donc on se rend compte des techniques artistiques déjà très évolué à cette époque. Et surtout, on se demande mais pourquoi cette surreprésentation de l'animal? Finalement, l'homme lui-même ne se représentait que très peu. Et lorsqu'il se représentait, il se représentait sous forme hybride, comme un être qu'on appelle thérianthrope, avec un corps d'homme, une tête d'animal. Et l'hypothèse sous-jacente derrière cela, et ça c'est pas moi qui l'avance, mais c'est les paléo-anthropologues qui ont longuement travaillé dessus, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse chamanique, c'est-à-dire que l'homme de la préhistoire a justement inventé cet autre monde dont je vous parlais, et qu'il communiquait avec cet autre monde au travers des parois des grottes, que ces figures animales permettaient de faire transiter les esprits du monde de l'invisible vers le monde du visible, et que finalement la relation à l'animal était extrêmement importante parce que l'animal occupait une place centrale. On l'oublie, mais à cette époque, il fallait se nourrir tous les jours, donc on chassait l'animal, on se nourrissait de lui. mais on était dans un rapport assez respectueux, où justement on pensait que finalement il y avait un équilibre au niveau du transfert des esprits. Lorsqu'on tue un animal, il y avait un transfert d'esprit et on n'éprouvait pas forcément du plaisir à le tuer.
Mais alors un changement s'opère quand les divinités mi-humaines, mi-animales ne symbolisent plus l'appartenance à un grand tout. Peu à peu, les hybrides homme-animal sont perçus comme des monstres, à l'image du Minotaure, hein, homme à tête de taureau qui se nourrit de chair humaine et qu'il faut enfermer dans un labyrinthe, ou encore le sphinx, au corps de lion ailé et à la tête de femme qui ravage les champs.
Alors c'est tout à fait vrai en Grèce antique. Les Grecs sont effectivement pétris de croyances sur ces êtres hybrides, mais en fait on retrouve pas du tout ces mêmes croyances, et ça c'est vraiment intéressant à regarder, en Égypte antique, où justement les Égyptiens, eux, ont des dieux qui ressemblent, qui ont que des caractéristiques zoomorphes, c'est-à-dire qui sont des animaux, et qui progressivement vont devenir des êtres hybrides. Et on sent déjà en Égypte antique cette volonté finalement de s'identifier de plus en plus aux dieux qu'on idolâtre. Et lorsqu'on projette effectivement, lorsqu'on se projette dans la Grèce antique, on a véritablement une grande transition à cette période-là, parce que les divinités telles qu'elles sont représentées sont les 12 dieux de l'Olympe et n'ont plus aucune caractéristique bestiale. Et finalement, les êtres hybrides, tout ce qui nous ramène à l'animal, nous ramène vers le bas en fait. Donc,
et oui, on voit peu à peu apparaître un système de croyances centré sur l'homme. Et c'est là que débute pour vous le lent processus d'enfouissement de la bête en nous.
Oui, en plus, ajoutez à cela qu'on a des grands penseurs qui finalement influencent beaucoup les modes de pensée de l'époque, comme Aristote, qui a une vision très utilitariste de la nature des animaux et qui voit justement dans la nature, dans les animaux, quelque chose de créé pour l'homme. Et cette vision utilitariste, elle va s'inscrire profondément dans la civilisation occidentale pour perdurer jusqu'à aujourd'hui. On a toujours cette idée que finalement tout ce qui nous entoure aurait été créé pour nous et qu'on aurait un droit de domination sur les animaux, sur le vivant.
Et les grands monothéismes vont dans ce sens.
Tout à fait, la religion catholique en particulier va finalement un petit peu en quelque sorte enfoncer le clou, puisque elle va enlever au monde sa sacralité. La nature et les animaux, encore une fois, ont été créés pour l'homme, et seul l'homme bénéficie d'une âme divine qui le différencie du reste de la nature.
Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, beaucoup d'animaux sont diabolisés, hein, à l'instar du chat, du corbeau, du loup. Notre ami, le grand historien Michel Pastoureau, l'a montré dans de nombreux livres.
Oui, il en a beaucoup parlé, c'est un vrai spécialiste de la question, du sujet. Effectivement, le Moyen-Âge n'est pas une très bonne période pour certains animaux qui sont carrément diabolisés. Je pense aux chats, aux crapauds, etc. Mais il y a des animaux qui finalement jouent leur rôle utilitaire. Et c'est notamment le rôle des cochons dont on se nourrit et qui vivent au quotidien avec les hommes. Tout à fait. Et cette fameuse histoire de la truie de la falaise que je relate dans mon ouvrage, qui est assez édifiante parce que c'est un animal qui va s'attaquer à un nouveau-né, qui va malheureusement le tuer. Et cette truie, on va la traîner devant un tribunal, parce qu'à l'époque, il est courant de mélanger vie théologique et vie publique, et donc d'intenter des procès aux animaux pour les punir. Et surtout, on va la revêtir de vêtements humains. Et on comprend bien que finalement, lorsque l'animal doit répondre d'actes négatifs, eh bien, on va... Et seulement à ce moment-là, lui attribuer une conscience et finalement chercher à comprendre ce qui a animé cet animal. En l'occurrence, on pense à des forces diaboliques qui ont animé cet animal au moment où il a commis son acte terrible.
Alors à l'époque moderne, Montaigne rappelle tout de même la capacité de l'animal à raisonner, à ressentir les choses. Mais plus tard, Descartes affirme que l'animal peut être doté de sensibilité, certes, mais il reste une machine. Pour lui, l'absence de langage et de pensée le différencie de l'être humain, et ça va rester dans nos têtes, hein, et dans nos manières de voir l'animal,
Cette pensée cartésienne, elle est vraiment encore très inscrite aujourd'hui, parce qu'elle va finalement faciliter la vision utilitariste qu'on avait déjà de l'animal. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile d'exploiter un animal si on pense qu'il réagit comme une machine et que c'est quelque chose d'absolument prédéterminé qui finalement ne raisonnerait pas, ne penserait pas, n'aurait pas mal pour de vrai, entre guillemets, parce que lui octroyait de la sensibilité à l'animal, mais pour lui c'était mécanique tout ça. Finalement, lorsqu'un animal criait, c'était simplement par réflexe. Et aujourd'hui, évidemment, les découvertes scientifiques vont à l'encontre de tous ces de toute ce mode de pensée, mais malheureusement, la pensée de Descartes va rester inscrite beaucoup encore encore dans notre civilisation aujourd'hui.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Gay comme un pinceau de vous retrouver en studio au lit. Oui, vous l'expliquez dans votre livre, Jessica Serra, nous avons du mal à imaginer les incroyables facultés cognitives des animaux ou de certains d'entre eux. Alors c'est ce que j'appellerais le mollusque bashing. Vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il a le QI d'une huître ou ce genre de choses. Nous avons, vous le dites, des préjugés bien ancrés en fait. Quels sont ces préjugés pour expliquer ça en fait ?
Nous en avons beaucoup. Nous avons des préjugés sur l'intelligence, nous avons des préjugés sur les émotions. Il y a beaucoup de gens qui sont encore convaincus aujourd'hui que les animaux ne sont pas capables de ressentir de la même manière que nous les émotions. Déjà, ça c'est une première chose. Or, ce qu'on a montré, et les neurobiologistes notamment, c'est que les mécanismes cérébraux qui sont à l'origine du traitement des émotions ont très peu évolué au cours du temps, même chez l'homme, et que donc le ressenti émotionnel serait absolument très proche entre l'homme et les animaux. Donc la peur, la colère, et même des émotions plus fines comme l'empathie. On parle même de jalousie maintenant chez les animaux, des choses qu'on s'interdisait de prononcer, des mots qu'on s'interdisait de prononcer à une certaine époque. Et donc on se rend compte que progressivement les choses sont en train d'évoluer, mais qu'il faut du temps, non seulement la science pour s'affirmer, mais aussi pour convaincre que ces découvertes-là doivent changer notre mode de pensée, notre regard sur l'animal.
Christophe André.
Oui, c'est passionnant hein, tout ce que vous racontez, votre livre vraiment est un régal par bien des aspects. En vous écoutant, je pensais à la psychiatrie évolutionniste, où on est en train de découvrir finalement qu'on peut penser quasiment toutes les aptitudes psychologiques des humains en termes d'aptitudes qui ont évolué, mais depuis le monde animal, avec une continuité sans rupture, qu'il s'agisse du sens moral. On a des expériences montrant que les singes ou les oiseaux, certains oiseaux sont sensibles à l'injustice et qu'ils rentrent dans des grandes colères s'ils sont victimes d'injustice. On a aussi des données montrant que la conscience de soi existe chez pas mal d'animaux. Tout ce que vous évoquiez sur les rituels funéraires, pendant longtemps, moi je lisais les historiens disant que vraiment ce qui singularisait l'espèce humaine et ce qui signait l'apparition de la culture et des civilisations humaines, c'était le culte rendu aux morts. Dès qu'on trouvait des tombes avec des petites offrandes, des fleurs, etc., eh bien c'était un signe d'humanité. Or, vous racontez dans votre livre que beaucoup d'animaux continuent, alors on ne sait pas s'ils viennent rendre hommage, mais continuent d'être de venir se recueillir, en quelque sorte, vu de l'extérieur, sur des dépouilles de leurs semblables. Donc, tout ça s'inscrit vraiment dans une continuité. Et pour finir, je voudrais dire que ça nous rend beaucoup de service par rapport aux émotions. Finalement, les émotions humaines sont très, très proches des émotions des primates, mais aussi globalement des mammifères. Et l'accepter, le comprendre, nous aide à comprendre aussi comment en faire un bon usage. Se dire, finalement, c'est pas des anomalies, c'est pas des... c'est pas une mauvaise espoir d'un échec de notre raison cartésienne, mais ça fait partie intégrante de nos capacités, de nos forces, de nos potentialités, et les comprendre de cette façon est un enrichissement dans finalement ce qu'on appelle globalement la gestion des émotions.
Et nous reviendrons tout à l'heure sur la question des émotions. Je propose, Jessica Serra, d'écouter la philosophe Elisabeth de Fontenay.
La différence ou la singularité humaine doit être marquée de façon assez forte. Personnellement, je ne parle pas de l'animal humain. Alors là, il y a pour moi des considérations éthiques et politiques. D'abord parce que si on parle de l'animal humain, on va finir par dire qu'il y a des humains qui sont plus animaux que d'autres et on retombe sur le racisme. Et puis, je considère que on froisse nos congénères en leur disant qu'ils sont des animaux. Dans la mesure où je souhaite que la responsabilité s'éveille, une responsabilité s'éveille des hommes vis-à-vis des animaux, sur différents plans, je ne pense pas que c'est en traitant les hommes d'animaux qu'on éveillera cette responsabilité.
Votre regard d'éthologue, Jessica Serra, au propos d'Elisabeth de Fontenay.
Alors, moi j'ai un regard un petit peu différent. Je pense au contraire que nous changerons probablement notre manière de considérer l'animal à partir du moment où nous accepterons notre animalité. Il faut beaucoup d'humilité, effectivement, pour ça. Et là, je la rejoins tout à fait sur le fait que ça reste quelque chose d'humiliant de traiter les autres de singes ou d'animaux, alors que je pense que quand cette idée sera plus acceptée et quand finalement nous comprendrons à la fois le lien génétique, évolutif
et les similarités grandes qui existent entre nous et les animaux, peut-être effectivement avec un peu plus d'humilité accepterons-nous mieux l'idée que effectivement nous restons des animaux, et à ce moment-là accepterons-nous aussi l'idée de cette connexion que nous avons rompue avec l'animal.
Et c'est vrai que c'est violent quand l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira se fait comparer à un singe sur les réseaux sociaux notamment. Ça nous choque qu'on la ramène.
Ça nous choque. Alors ça nous choque parce que l'idée de parler de singe en parlant d'homme nous choque. Encore une fois, à cause de cette rupture entre l'homme et l'animal qu'on a nous-mêmes créée depuis des millénaires, qui s'est inscrite à la fois dans notre éducation, dans nos croyances, à travers différentes religions aussi. Et c'est tellement inscrit en nous. Et finalement, c'est tellement une manière de s'extraire de notre condition de mortel, de se dire que finalement, non, nous n'allons pas finir en poussière comme tous ces autres animaux. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Je comprends que l'être humain veuille, encore une fois, s'extraire de sa condition animale. Maintenant, je pense que d'un point de vue scientifique, la science nous rappelle un petit peu à l'ordre et nous rappelle qu'il faut rester, encore une fois, objectif sur ce que nous sommes réellement.
Dans quelques instants, on s'intéresse à nos émotions bestiales et à notre instinct sexuel. En attendant, on écoute France Gall, À mort en Bienne.
Il y a des jours fragiles, des soirées difficiles. Le monde est égoïste, il y a des journées tristes. Mais il y a des matins fous, où tout change tout d'un coup, où la tête comprend tout, le cœur se remet debout.
France Gall, À mort en Bienne.
Bon allez Didier, maintenant maman va travailler. Alors tu as un bon chien pendant 10 jours.
Grand bien vous fasse.
Un an c'est 7 ans pour un chien, alors 10 jours, fais le calcul, il va être malade maintenant.
Didier, maintenant Jean-Pierre, c'est papa. Merci Jean-Pierre.
Ciao.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, je vous propose d'explorer notre part d'animalité en compagnie de l'éthologue Jessica Serra. Et une question de Christophe André.
Oui, oui, dans votre livre, moi, il y a un passage, alors tout est bien, mais alors, il y a un passage qui m'a fasciné, c'est le passage sur les guerres entre tribus de chimpanzés, où on voit jusqu'à quel niveau de violence ça peut aller, donc on se dit que vraiment, là, sur ce plan-là, ils ont rien à nous envier. Et je me posais la question de savoir, finalement, pour moi, qui suis psy, je me dis, il faut reconnaître cette part d'animalité, de bestialité en nous, parce que, finalement, reconnaître qu'on a des potentialités à la violence, savoir aussi qu'on a des potentialités à la sociabilité, comme les ont aussi les singes, n'est-ce pas une façon de, justement, mieux pouvoir les réguler, les nommer, dire que nous les hébergeons, que c'est pas que de la culture, il y a aussi cette nature en nous. Est-ce que, de votre regard d'éthologue, c'est pas aussi une voie que nous devrions emprunter plus souvent?
Oui, c'est... Alors, j'ai trouvé ça absolument terrifiant, effectivement, de retrouver... Alors, chez peu d'espèces animales, quand même, c'est important de le souligner, mais des phénomènes de guerre, en fait. Ouais. Hein, la guerre qui existe chez certains animaux, notamment les chimpanzés et les fourmis. Alors, les fourmis, on peut pas inférer grand-chose du comportement des fourmis par rapport à nos propres comportements, mais ça veut dire quand même que la guerre existe dans la nature. Elle existe, j'allais dire, de manière très parcimonieuse, mais elle existe. Et quand on regarde les chimpanzés, effectivement, c'est assez terrifiant parce qu'on se dit qu'effectivement, on porte en nous cette violence-là. Et j'ai discuté justement de cette origine de la violence qui peut faire peur parce qu'on se dit finalement, si c'est programmé génétiquement, nous, que peut-on y faire? Mais moi, je suis convaincue, peut-être suis-je un peu trop optimiste, mais je suis convaincue que justement, le côté savant de nous autres êtres humains fait qu'aujourd'hui, on arrive à penser cette animalité et ce côté peut-être négatif de notre animalité, mais à réguler parce qu'aujourd'hui, on sait que ça existe et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que justement, notre intelligence et surtout le développement de notre empathie, puisque nous sommes aussi des êtres empathiques et j'en discute beaucoup parce qu'il n'y a pas seulement la violence qui nous anime, il y a aussi beaucoup d'empathie. Finalement, est-ce que c'est pas ça qui sauverait l'humain aujourd'hui? Est-ce qu'on peut pas construire des modèles socio-éducatifs qui soient basés sur la non-violence?
Alors Jessica Serra, vous consacrez un chapitre de votre livre à nos émotions bestiales. D'un point de vue strictement biologique, qu'est-ce qui différencie les émotions de peur ou de colère chez les animaux? Rappelons que Darwin publie à la fin du 19e siècle l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Que nous disent les études éthologiques menées ces dernières années?
Alors elles nous disent qu'en termes de ressenti, probablement sommes-nous sur le même degré de ressenti. C'est-à-dire que un humain qui a peur et un animal qui a peur, on va ressentir absolument la même chose. Il y a certainement une différence en termes de traitement cognitif de l'émotion, c'est-à-dire ce que nous allons faire de cette émotion-là. Néanmoins, les animaux sont tout à fait capables de se rappeler d'un contexte qui a créé telle ou telle émotion et finalement de fuir la situation, par exemple, qui a occasionné de la peur ou de la douleur et même des années plus tard. Donc on se rend compte à quel point la mémoire est importante aussi chez l'animal et que je dirais qu'effectivement là où l'homme va se différencier probablement de l'animal en termes émotionnels, c'est en termes de partage social de l'émotion. C'est-à-dire que l'homme va avoir besoin, à travers ses mots justement aussi, de beaucoup partager. Alors ça ne veut pas dire que les animaux ne partagent pas leurs émotions, mais ils vont le faire par ce qu'on appelle le phénomène de contagion émotionnelle. Ils vont consoler aussi. Il y a beaucoup d'animaux qui sont capables de consoler leurs congénères. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de ressemblance encore une fois avec nous que ce qu'on imagine. Mais probablement nous, voyez, par exemple, en termes d'empathie, nous sommes capables de donner notre sang, donc c'est quelque chose, un comportement altruiste à l'aveugle, là où les animaux ne vont pas se comporter à l'aveugle, parce que quand ils vont exprimer des comportements altruistes, ils vont l'exprimer directement envers un congénère. Et parce que nous avons construit des systèmes sociétaux extrêmement sophistiqués et des sociétés humaines qui sont très vastes, nous partageons finalement des valeurs communes, nous avons construit des valeurs communes, et c'est grâce à cela que nos comportements altruistes aussi se démocratisent en quelque sorte au sein de la société.
Christophe André, rappelez-nous ce qu'est une émotion d'un point de vue biologique.
Une émotion, c'est un phénomène global qui met en œuvre notre corps, notre cerveau, notre regard sur le monde, et qui se déclenche face à des situations qui introduisent une déstabilisation, une nouveauté dans notre environnement. Donc au départ, c'est vraiment un phénomène absolument biologique qui a des répercussions comportementales et psychologiques. Et donc c'est fascinant effectivement quand on regarde ce bouquin de Darwin qui a été une rupture historique absolue, de voir comment il montre avec intelligence que ce sont exactement les mêmes, jusqu'à des émotions comme la compassion ou la consolation. Il y a des comportements de consolation au sein des espèces animales où ils prennent conscience de l'émotion douloureuse de l'autre ou de la mise en échec de l'autre et où ils décident de lui faire du bien, de lui faire ressentir des émotions positives.
J'aimerais qu'on s'intéresse à la joie. Certains ont du mal à assimiler l'idée que les animaux éprouvent de la joie. Est-ce que c'est faire preuve d'anthropomorphisme que d'attribuer cette émotion aux animaux ?
Je ne pense pas. Alors, ce qui se passe, c'est que les éthologues, finalement, l'éthologie est une discipline assez récente. Elle remonte à quelques, on va dire, à Darwin et qui a été vraiment le précurseur. Mais lorsqu'on regarde un peu toutes les études qui ont été faites sur les émotions, étonnamment, par exemple, les éthologues sont beaucoup intéressés à la souffrance, la douleur ou des émotions assez négatives parce qu'elles sont faciles à quantifier, à objectiver. On peut relever un taux de cortisol et savoir si l'animal a été stressé. La joie, finalement, on va avoir des comportements, mais d'un point de vue physiologique, c'est plus compliqué à investiguer. En revanche, moi, je vais donner mon point de vue d'éthologue à moi, et j'ai étudié pas mal d'espèces animales différentes. Il est certain que la joie égaye l'existence des mammifères et probablement, évidemment, aussi des oiseaux et probablement d'autres animaux. On sait notamment que le jeu égaye beaucoup l'existence. Là encore, on pensait que le jeu chez l'animal n'avait qu'une fonction, finalement, n'aurait qu'une fonction ultérieure d'apprentissage. Et on se rend compte que non, l'animal joue pour le jeu.
Et d'ailleurs, la neuroscientifique Annika Reinhold de l'université Humboldt à Berlin a fait jouer des rats à cache-cache.
Oui, tout à fait. Ça peut paraître déroutant, mais ces rats-là jouaient vraiment avec leur expérimentateur à cache-cache. Et donc, ils ont fait des relevés de leur activité cérébrale et ils ont montré que ces rats étaient vraiment dans des moments de joie, à chaque fois surexcités avant de retrouver la personne humaine avec laquelle ils jouaient.
Et est-ce que les animaux sourient de la même façon que nous, hein? Je parle du vrai sourire qui est connecté à une émotion. Je crois qu'on retrouve des sourires spontanés chez les bébés chimpanzés et ce sont les mêmes sourires que chez les nourrissons.
Oui, et même chez les bébés singes macaques. Mmh. J'ai mis une illustration dans mon bouquin parce que je trouvais ça assez édifiant de voir que pendant le sommeil, ces bébés macaques finalement souriaient aux anges comme on le voit chez nos nouveau-nés humains. Et quand on le regarde chez nos nouveau-nés humains, on a l'impression que ça présage des sentiments humains à venir comme si c'était quelque chose d'absolument spécifique, encore une fois, à notre espèce. Et on se rend compte que le sourire apparaît chez bien d'autres espèces animales. Alors plus tard, il n'aura pas forcément la même fonction sociale, puisque chez nous, le sourire, déjà, a plusieurs fonctions. Mais on peut sourire, par exemple, parce qu'on est content. Et on se rend compte que chez les chimpanzés, le sourire va plutôt être face à un comportement d'intimidation, donc n'a pas forcément la même fonction biologique, mais est souvent reliée à une émotion aussi.
Marie-Laure Sonnenschein, de Femmes Actuelles.
Oui, par rapport à ce que vous évoquiez à l'instant, la joie, le partage, les émotions positives, est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre d'une étude scientifique qui date de septembre dernier, qui s'est intéressée aux propriétaires d'animaux de compagnie pendant, bien évidemment, le confinement, et qui s'est rendu compte que ces personnes avaient beaucoup mieux traversé cette crise sur le plan émotionnel, précisément. Ils étaient moins angoissés, moins stressés. Est-ce qu'il y a une meilleure connexion qui s'est faite tout simplement avec leur chat, leur chien, voire leur poisson rouge?
Complètement. Alors le poisson rouge, je sais pas. En tout cas, le chien et le chat, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est... Alors, il faut savoir que ce sont des animaux qu'on appelle néoténiques. Donc, ce sont des animaux qu'on a un peu modelés à notre image et qui sont des animaux encore plus joueurs, j'allais dire, que leurs ancêtres sauvages, parce qu'aussi ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils n'ont pas à survivre au quotidien, on leur donne à manger, on les nourrit, et ils vont présenter beaucoup de comportements juvéniles, nos chiens et nos chats. Et finalement, c'est un véritable bonheur que d'observer un chien jouer ou un chat, et puis le chat, justement, je trouve, incarne à merveille cette capacité à jouir du moment présent. Je parle de carpe diem pour le chat, parce que quand on observe son chat, on est forcément fasciné par son lâcher prise. Et ça, je trouve que l'animal a cette capacité effectivement à créer une bulle assez protectrice, à nous couper de la réalité anxiogène du monde qui nous entoure. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on vit particulièrement dans quelque chose, une ambiance qui est particulièrement anxiogène, et que les chats, nos chats et nos chiens nous ramènent à l'instant présent et surtout nous font voir que l'existence, on peut la savourer au quotidien et juste en interagissant avec nos animaux ou en les observant, savourer l'existence.
Et Sylvette cite le paléontologue Pascal Pic, l'homme n'est pas le seul animal qui pense, mais c'est le seul qui pense qui n'est pas un animal. Bonjour Thierry, vous êtes avec nous en direct.
Bonjour.
Je crois que vous êtes vétérinaire, hein ?
Oui, j'ai fait une thèse d'éthologie. Alors j'ai peur que ce que je dis soit un peu redondant par rapport à ce qui vient d'être dit. À l'époque où j'ai fait ma thèse, je suis à la retraite, il y avait les tentations du zoomorphisme et de l'anthropomorphisme. Il me semble que l'erreur, ce qui a déjà été très bien décrit, la plus commune, c'est que notre animalité, elle est dans nos relations les plus basiques, les plus intimes. Je vois une maman qui défend ses enfants et une chatte qui défend ses petits. C'est pareil. Je me vois en train de volant de ma voiture en train de m'engueuler avec les autres automobilistes et je vois des chiens en train de s'engueuler. C'est pareil. Et c'est pas c'est justement dans nos rapports, dans ce qui nous est le plus intime, je pense qu'on est le plus proche des animaux. On a un système respiratoire comme eux, on a un système sanguin et on a un système de fonctionnement des émotions ou des sentiments qui est similaire. La différence entre l'homme et l'animal, elle est pas là.
Elle est où?
Comme le disent les paléoanthropologues qui considèrent que les hommes apparaissent dès qu'il y a le culte des morts, je pense qu'il y a une quantité qui fait un moment dans l'évolution qui devient une qualité différente, mais sûrement pas dans nos relations intimes au quotidien.
Merci beaucoup Thierry, en tout cas, pour votre jolie réflexion. Dans quelques instants, on s'intéresse à l'instinct sexuel. Sommes-nous si différents des animaux? Vous avez vu comme j'appâte l'auditeur, mon cher Christophe André. En attendant de répondre à cette brûlante question, il est l'heure de retrouver les choses vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Cette chronique est dédiée à tous les chiens de mon enfance. Il y a d'abord eu Laïka, le loulou blanc de mon grand-père, ainsi nommé en hommage à son homonyme soviétique, une petite chienne qui fut le premier être vivant envoyé dans l'espace par l'URSS en 1957. Exploit par procuration, dont mon grand-père était très fier puisqu'il était communiste, comme beaucoup de grands-pères à l'époque. Ensuite, il y eut Quito, Mémanos, Pekelou. Bon oui, les noms de chiens en disent parfois long sur l'imaginaire de leur famille d'accueil, mais c'est une autre histoire. Devenu adulte et citadin, je me suis mis à moins aimer les chiens, principalement à cause de leurs propriétaires, les possesseurs de chiens qui les laissent déposer leurs crottes partout dans les villes, les possesseurs de chiens qui dépensent des sommes folles pour s'acheter la nouvelle race à la mode et afficher ainsi leur différence ou leur supériorité au lieu d'aller en adopter un à la SPA, les possesseurs de chiens qui les confient toute la journée à des dog-sitters qui amènent ainsi dans les parcs et les boîtes tout proches des grandes villes des troupeaux de canidés névrosés par la vie en appartement et qui se défoulent, on les comprend, en aboyant, galopant et chiant sur des chantiers, des sentiers jadis tranquilles. Les possesseurs de chiens, enfin, qui passent leur journée à brailler des ordres à leur substitut névrotique à pattes.
Où est-on passé ce chien? Je le cherche partout. Où est-on passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est-on passé ce chien? Je le vois, veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va.
Voilà. On va l'avoir dans la tête toute la journée, merci.
Désolé.
Amour des chiens, suivi de désamour donc. Puis, en prenant de l'âge, je me suis remis en question. À force de rouspéter après les chiens et leurs inciviques propriétaires, je me suis dit que je devenais un vieux grincheux. Du coup, j'ai décidé de regarder tout ça de plus près, écartant mes rouspétances et attendrissant mon œil. J'ai vu alors apparaître la joie pure, l'amour désintéressé et la bienveillance universelle. En observant les chiens citadins courir ventre à terre dans les bois ou sur les plages, j'ai découvert ce qu'était la joie animale, vitale, la joie simple et intense d'exister. Les chiens semblent toujours heureux d'être là où ils sont et nous pourrions nous en inspirer. Et puis, il y a l'amour. L'amour du chien pour son maître est magnifique, inconditionnel, éternel. Lui aussi, cet amour est palpable, tangible, visible. Ainsi, quand le couple maître et chien se promène, le second se retourne souvent sur le premier pour vérifier qu'il est toujours là, que rien ne lui soit arrivé. Qu'ils sont émouvants et inspirants, ces petits regards répétés et affectueux du chien pour son maître. Et puis, il y a quelque chose de plus fort encore, que le poète Christian Bobin a décrit d'une phrase. Nous devrions rendre grâce aux animaux pour leur innocence fabuleuse et leur savoir gré de poser sur nous la douceur de leurs yeux inquiets sans jamais nous condamner. Les chiens ne nous jugent pas ni ne nous condamnent. Même avec nos défauts, nos petitesses, nos limites, nos échecs et nos lâchetés, les chiens nous aiment. Comme devraient nous aimer nos semblables et comme nous devrions les aimer, imparfaits et casse-pieds parce que fragiles et mortels. Voilà, c'était le récit de ma conversion. Et maintenant, quand je vois une crotte de chien au milieu du trottoir, avant de commencer à rouspéter, je me dis que ce petit paquet est sorti d'un animal qui en a beaucoup à nous apprendre en matière de joie, d'amour et de bienveillance.
Jessica Serra.
Oui, alors je trouve que c'est un magnifique texte. Ça me rappelle la domestication du loup, évidemment, parce que lorsqu'on pense au chien d'aujourd'hui, on oublie qu'il est issu du loup et le loup est absolument mal vu de nos jours. Or, le loup, c'est un animal qui a un degré de coopération sociale extrêmement élevé, qui présente des comportements altruistes. Et le chien est issu de ce loup-là que nous avons domestiqué. Et finalement, Sapiens, nous n'en serions pas là aujourd'hui.
Sans
le chien, enfin sans la domestication du loup. Et cet amour inconditionnel du chien envers l'homme, c'est quelque chose d'assez unique qu'on retrouve, parce qu'effectivement les loups justement sont, étant des êtres très altruistes, vont finalement considérer l'être humain comme des membres de leur propre meute, risquer leur vie pour défendre les êtres humains de leur nouvelle meute. Et ces loups ont été sélectionnés aussi par l'être humain pour devenir les chiens qu'on connaît aujourd'hui, par rapport à leur faculté de coopération et par rapport au lien d'attachement très fort qui unit l'être humain et le chien, et de manière, je dirais, absolument incomparable, parce que moi j'adore les chats, mais je crois que c'est un lien d'attachement un peu différent qui unit le chat et l'homme, et le chien et l'homme.
D'écouter l'un de mes titres préférés en ce moment, Jungle, Talk About It.
Alors on va la choisir cette vache, parce que moi j'y connais rien.
Fais-moi confiance, va.
Grand bien vous fasse.
Eh ben tiens, ça c'est de la vache.
Oui.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, je vous propose d'explorer notre part d'animalité en compagnie de l'éthologue Jessica Serra.
Pendant la saison des amours, les flamands s'adonnent à de spectaculaires balais synchronisés, même à l'heure la plus chaude de la journée. Ils sont tellement concentrés qu'ils ne s'arrêtent même pas pour se nourrir. Les règles du jeu sont très mystérieuses. Mais après un mois de danse effrénée, tous les flamands auront trouvé un partenaire et seront prêts à se reproduire.
Extrait d'un documentaire consacré aux flamants roses diffusé sur France 5. Jessica Serra, des recherches ont montré que les animaux, comme les êtres humains, recherchent le plaisir sexuel et pas seulement en période de reproduction.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde un documentaire animalier, on le regarde avec nos yeux d'être humain, deux animaux s'accoupler en se disant bah tiens, finalement, ils sont en train de réaliser des fonctions biologiques assez basiques. Ils font ça pour se reproduire. Alors déjà, l'animal n'a pas conscience, hein, qu'il va faire des bébés en s'accouplant. Et puis surtout, ce qui guide l'animal dans l'accouplement, c'est avant tout le plaisir. Et donc, sans plaisir, pas d'accouplement.
Que vous évoque cette phrase du point de vue de l'éthologue, faire la bête à deux dos pour évoquer l'acte sexuel avec parfois un peu de dégoût quand on rapproche nos actes sexuels à la bestialité de ceux des animaux.
C'est très intéressant parce que là encore, on est pétri de croyances et ces croyances-là, elles viennent aussi de la religion hein, qui finalement nous pousse à cacher quelque part notre sexualité. Il faut se rendre compte que ça n'a pas toujours été le cas. Vous vous projetez en romantique. Que vous avez visité Pompéi, vous vous rendez compte que la bisexualité était la norme, que les relations homosexuelles étaient fréquentes, que les multipartenaires étaient fréquents. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans un sens plus que dans l'autre. Ça, c'est un choix personnel. Mais je dirais que les jugements qu'on peut avoir sur, par exemple, les homosexuels sont totalement infondés. L'homosexualité est dans la nature. Et ça, il y a au moins 450 espèces animales qui ont été répertoriées aujourd'hui qui ont des pratiques homosexuelles régulières. Et finalement, là encore, les animaux ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes.
Vous comprenez que certains répugnent à l'idée que nous ayons des instincts sexuels pareils à ceux des animaux ?
Je le comprends quand je regarde notre éducation. Aujourd'hui, par exemple, on peut parler du péché solitaire, de la masturbation. C'est quelque chose qui est absolument tabou dans nos sociétés. On n'en parle pas à nos enfants. On voit ça comme une sous-sexualité, comme si finalement il fallait absolument se cacher, ne jamais dire, au grand jamais, que les êtres humains s'y prêtent. Or, bah, je vais rassurer tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à l'antenne, il y a tous les singes se livrent à la masturbation, tous les mammifères, on pense, alors ils n'ont pas forcément les mêmes techniques, mais c'est finalement la recherche du plaisir et ce n'est plus considéré aujourd'hui comme une sous-sexualité, mais comme faisant partie de la sexualité à part entière.
Comme beaucoup d'animaux, sommes-nous soumis à notre odorat dans le choix de nos partenaires sexuels et amoureux ?
Oui, alors ça c'est une étude qui avait été menée, je crois, aux États-Unis, où finalement des femmes pouvaient choisir entre l'odeur de plusieurs t-shirts portés par des hommes, et on a montré que elles étaient plus attirées par des hommes qui finalement avaient une odeur qui les renseignait sur la compatibilité génétique, c'est-à-dire qu'on va choisir en général un partenaire sexuel qui est suffisamment éloigné de nous d'un point de vue génétique pour éviter les phénomènes de consanguinité.
Mais les résultats ne sont pas les mêmes avec les femmes qui prenaient
une contraception. Tout à fait, oui. Les femmes sous pilule n'avaient pas exactement les mêmes choix et donc les auteurs de cet article, de cette publication scientifique discutent justement de la prise de la pilule chez la femme qui peut trouver peut-être son partenaire amoureux au fil des années un peu moins attractif parce que moins sensible à ces odeurs-là.
Et les phéromones, ces composés odorants sexuellement attractifs, existent-elles chez l'être humain ? Que nous dit la recherche scientifique ?
La recherche aujourd'hui, elle nous dit qu'on n'a rien trouvé de vraiment concluant chez l'être humain. Il y a beaucoup de publicité sur les phéromones sexuels qui existeraient. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'organe voméronasal, donc qui est impliqué dans la détection des phéromones chez les animaux, est au stade de vestige chez l'être humain. Ce qui fait qu'on pense que l'être humain, finalement, serait parmi les espèces les moins sensibles aujourd'hui aux phéromones. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que nous traitons plus de manière cognitive, la manière, notre rencontre amoureuse. Et donc, il y a quelque chose d'assez poétique là-dedans.
Marie-Laure Zonshine, de Femmes Actuelles.
Oui, puisqu'on connaît, en revanche, un peu mieux, c'est les parades amoureuses. C'est la partie séduction. C'est avant d'aller vers l'autre, tourner autour, se faire beau.
Les pratiques de séduction sont extrêmement étendues chez l'homme, qui fait preuve d'une imagination débordante en la matière. Là encore,
en discothèque notamment.
Oui, j'en parle parce que je trouve que les déhanchés des femmes et des hommes en discothèque, peut-être plus qu'ailleurs, sont, en tout cas de mon regard d'éthologue, absolument édifiants. Les nouvelles danses, ou même les anciennes, on peut parler de la lambada, le twerk.
Rappelez ce qu'est le twerk.
Le twerk, c'est un déhanché en fait du fessier.
Très sensuel.
très sensuel qui rappelle effectivement une position sexuelle, bien entendu, et que nous le regardons comme une danse, et c'en est une. Mais c'est aussi et clairement une pratique de
les,
séduction.
Les animaux, je dirais, les maîtres en la matière, selon vous, en termes de parades amoureuses, ce sont lesquels?
Ah, il y en a beaucoup, parce que les animaux déploient de l'énergie, une énergie incroyable à séduire leur partenaire. Si vous regardez les brames des cerfs, c'est magnifique à entendre. Et je dirais que les oiseaux sont des maîtres en la matière parce qu'ils vont déployer des joyaux esthétiques, les mâles en particulier, pour plaire à leur dulciné.
Alors nous arrivons au terme de notre émission. Comment se réconcilier avec l'animalité en nous, Jessica Serra?
Je pense d'abord en acceptant de découvrir justement d'un point de vue scientifique cette part d'animalité, en déconstruisant ce qu'on nous a appris pendant des millénaires, hein, ça date pas de notre génération, et en se disant finalement aujourd'hui si je repars de zéro et que je regarde les dernières découvertes scientifiques, qu'est-ce qu'elles m'apprennent sur les animaux, sur moi-même, et est-ce qu'il n'est pas temps plus que jamais aujourd'hui de reconnecter avec notre part animale et donc avec la nature et les animaux.
Christophe André.
D'autant plus qu'il y a des choses merveilleuses. Dans votre livre, moi, mon anecdote préférée, c'est l'amitié entre un chien et un bouc, qui sont les meilleurs copains du monde. Et chaque fois qu'ils se rapprochent, on voit qu'il y a de l'ocytocine qui inonde le cerveau du chien, par exemple. Et ça explique aussi pourquoi sur Internet, on adore ces photos où on voit des chiens dans les bras de chats ou des chats faire des câlins à des canards au fond. Ça nous envoie un message réconfortant sur la fraternité universelle entre animaux, entre humains, etc., etc.
Rappelez ce qu'est l'ocytocine.
L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et qui nous procure un grand plaisir dans nos rapports, lorsqu'on est en rapport avec les autres.
Merci beaucoup Jessica Serra d'être venue dans notre émission. Je conseille vraiment la lecture de votre livre « La bête en nous » et c'est publié chez Humaine Science. Demain, qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre à la place des autres ?